Le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le projet Europa City très compromis. La justice a annulé le plan local d'urbanisme de Gonesse où doit s'implanter ce gigantesque espace commercial et culturel très critiqué. On fait le point dans un instant avec Anne-Laure Chouin. Theresa May a beau se démener pour sauver l'accord de Brexit, la première ministre ne semble pas avoir convaincu le Parlement britannique. Selon toute vraisemblance, les députés devraient rejeter l'accord ce soir. Le président algérien ne se représentera pas, mais il n'a pas dit quand il partirait. Des milliers d'étudiants se mobilisent contre la prolongation du quatrième mandat. Nous irons à Alger. Et puis, avec Cécile de Kervas-Douai, nous nous intéresserons à la Joconde nue, présentée aujourd'hui au musée de Chantilly. Tableau dont on s'est longtemps demandé s'il était bien de Léonard de Vinci. La réponse est oui. 230 000 mètres carrés dédiés au commerce, 50 000 à des équipements culturels et 150 000 aux loisirs avec une piste de ski indoor. Le méga projet Europa City dans le Val-d'Oise ne verra peut-être jamais le jour. Les opposants sont nombreux, des commerçants des environs inquiets, mais aussi des défenseurs de l'environnement, car le projet présente le gros inconvénient d'artificialiser de très bonnes terres agricoles. Après des années de batailles juridiques, le tribunal administratif de Pontoise vient d'annuler le plan local d'urbanisme de la ville de Gonesse, où doit s'implanter Europa City. Cette décision met sérieusement à mal le projet, Anne-Laure Chouin.
Oui, c'est un peu plus qu'une énième péripétie juridique, comme l'a évoqué tout à l'heure le plus ardent défenseur d'Europa City, le maire de Gonesse, car cette décision, sur le fond, rend de fait les terres du triangle de Gonesse à leur vocation agricole. On rappelle qu'il s'agit là d'une surface de 300 hectares qui compte parmi les plus fertiles d'Europe et qui sont situées dans une zone non urbanisable parce que difficilement vivable à cause du bruit, notamment à l'intersection des aéroports de Roissy, du Bourget, de plusieurs autoroutes et de nationales. C'est d'ailleurs l'une des trois raisons qui ont motivé la décision du tribunal. Le juge estime par ailleurs que le conseil municipal de Gonesse, qui avait approuvé le PLU prévoyant l'urbanisation donc de ces terres, avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant sous-évalué ses effets sur les milieux naturels, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, les sols, et en ayant surévalué les bénéfices escomptés en termes de création d'emplois notamment. De fait, deux centres commerciaux existent déjà tout près du triangle de Gonesse, Aéroville et Paris Nord. Reste la gare de la future ligne 17 qui devait desservir Europa City. Étienne Ambroselli est l'avocat du CPTG, un collectif d'associations opposant à Europa City.
Le maire de Gonesse avait accordé, en dépit du bon sens, le permis de construire la gare de Gonesse en plein champ, alors que les rails ne sont toujours pas faits. La N17, elle n'a pas commencé, hein, et il s'agissait de construire une énorme gare en plein champ, sans route, je veux dire, sans rail, comme une sorte de cheval de Troie, à dire, bah voilà, la condition d'urbanisation de ce secteur, c'est qu'il y a une gare, et ben voilà, vous l'avez, elle est là, on finira bien par urbaniser ce secteur. Et donc là, il y a un permis qui a été attaqué, et qui sera très probablement annulé, puisqu'il a été pris sur le fondement d'un PLU qui vient lui-même d'être annulé.
Voilà, le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, a déjà annoncé qu'il ferait appel de la décision, mais le projet qui n'a pas les faveurs du monde politique a du plomb dans l'aile à défaut d'être complètement enterré.
Anne-Laure Chouin, le défenseur des droits se dit préoccupé. Dans son rapport annuel, Jacques Toubon affirme qu'il y a un renforcement de la répression en France. Toujours plus sollicité, il souligne que les réclamations qui lui sont adressées reflètent le sentiment d'injustice et d'inégalité qui ressort du mouvement des Gilets jaunes. Jacques Toubon souligne aussi le repli des services publics qui sapent, selon lui, la cohésion sociale. Il pointe l'impact de la fracture numérique à Kim Kasmi.
Aurélie, 93% des réclamations reçues par le défenseur des droits concernent les services publics. Retard dans le versement de certaines retraites, suppression du guichet dans les préfectures pour délivrer les permis de conduire, la pression budgétaire sur les administrations avec la baisse des effectifs et leur dématérialisation à marche forcée inquiète le défenseur des droits Jacques Toubon.
Il existait 20 à 25% de la population qui ne peut pas accéder aux services publics et donc à ses droits à travers des demandes en ligne. Est-ce que les services publics vont continuer à être universels, c'est-à-dire à s'adresser de manière égale à toutes celles et à tous ceux qui vivent dans notre pays, qui ont besoin du service public, ou est-ce qu'il y aura des laissés pour compte ?
Une situation qui devrait encore se dégrader avec la réforme de la fonction publique qui prévoit la suppression de 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat, prévient Christian Grolier, secrétaire général Force ouvrière de la fonction publique.
C'est un gouvernement qui a la mémoire courte. On sait tous aujourd'hui que le service public est un vrai amortisseur social, un vrai garant de la cohésion sociale, Et si demain, ce qu'on propose à nos concitoyens, c'est moins de services publics, moins de présence de proximité et de fait, moins d'égalité des droits, je ne suis pas certain que ça va améliorer la cohésion dans notre pays.
En attendant, le rapport du défenseur des droits préconise donc qu'il y ait toujours un canal papier et que les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou les handicapées, puissent être accompagnées par des moyens humains.
Hakim Kasmi, et les droits des enfants migrants sont-ils garantis? Une question prioritaire de constitutionnalité sur les tests osseux sur les mineurs étrangers a été débattue ce matin par le Conseil constitutionnel. Elle a été déposée par un jeune Guinéen qui avait refusé cet examen et donc était considéré comme non mineur par un juge des enfants. Les 9 associations présentes dénoncent l'article 388 du Code civil qui autorise et encadre les tests osseux depuis 2016. Selon ces associations, ces tests, une radio de la main et du poignet gauche, ne sont pas fiables. Elles demandent leur interdiction pure et simple, Soizigbourg.
Des tests créés en 1930 et basés sur une population nord-américaine en bonne santé, bien loin de celle des migrants qui arrivent en France. Et surtout, leurs marges d'erreur peuvent aller, selon les spécialistes, de 18 mois à 6 ans. Brigitte Janot est avocate requérante de l'Association pour la défense des étrangers.
Il y a une véritable confusion qui est faite depuis 20 ans. Il y a de très nombreuses instances qui alertent sur le détournement qui a été fait de ces tests, qui n'ont absolument pas vocation à établir de manière ferme un âge chronologique et la confiance qui est faite par les magistrats.
Pour elle, les garde-fous ne sont pas satisfaisants.
On voit dès le début de la procédure des tests osseux qui sont ordonnés et qui vont devenir l'élément principal sur lequel le juge va ensuite s'appuyer avec des effets absolument terribles pour le jeune qui va se retrouver à la rue.
Il est donc nécessaire, d'après ces associations, que le Conseil constitutionnel se positionne et prenne davantage en considération la valeur du doute. Patrice Pinot, avocat pour la Ligue des droits de l'homme.
On est face à des enfants potentiellement, mais qui sont aussi des étrangers. Donc, qu'est-ce qui doit prévaloir? Est-ce que c'est la protection de l'enfance ou est-ce qu'au fond c'est l'efficacité du droit des étrangers? Ce que nous défendons, c'est que la présomption de minorité, le doute doit nécessairement bénéficier à l'enfance. Donc, tant qu'il n'y a pas de certitude, c'est l'enfant qui prime, c'est pas le droit des étrangers.
Certains juges des enfants demandent une évaluation pluridisciplinaire de la minorité avec une dimension sociale, éducative et psychologique. Le Conseil constitutionnel, lui, doit rendre sa décision le 21 mars.
Des milliers de tests osseux sont pratiqués chaque année en France, contrairement à la Grande-Bretagne qui y a renoncé et préfère maintenant une autre approche avec notamment davantage de tests psychologiques. Le rapport sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes sera remis au gouvernement le 28 mars et la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, promet de passer à l'action dans les semaines qui suivront en vue d'une loi à la fin de l'année. La ministre est intervenue lors des Assises nationales des EHPAD, les maisons de retraite médicalisées, où elle a dit son soutien aux professionnels du secteur, Catherine Pétillon.
Oui, tout juste un an après un vaste mouvement de grève dans les EHPAD où les personnels soignants dénonçaient leurs difficiles conditions de travail, mais aussi un an après une série de scandales liés à des cas de maltraitance dans certains établissements. Agnès Buzyn a déploré, je cite, un EHPAD bashing dans les médias et les livres, comprendre des critiques adressées aux établissements. C'est injuste, estime la ministre, car la qualité de la prise en charge n'a, dit-elle, jamais été autant contrôlée et inquiétant pour les familles. Ces propos ont sonné doux aux oreilles des directeurs d'établissements présents. Beaucoup se disent affectés de l'image donnée à leur profession. Mais ce qu'ils attendent surtout, c'est une politique pour le grand âge et la loi sur la dépendance, annoncée pour cette année par Emmanuel Macron en réponse à la crise. La ministre de la Santé n'a pas voulu se prononcer sur les pistes à l'étude, car elle attend dans quelques jours que lui soient remis officiellement les résultats de la concertation nationale, lancée en octobre. Elle est pilotée par Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Parmi les besoins auxquels devra répondre la loi, la ministre a néanmoins listé la nécessaire revalorisation des métiers de l'âge, l'articulation entre EHPAD et domicile, une plus grande égalité entre les départements en matière d'aide sociale et l'épineuse question du reste à charge, c'est-à-dire les sommes dont doivent s'acquitter les personnes hébergées ou leurs familles avec, on le sait, de plus en plus de difficultés. C'est particulièrement vrai ici, il ne pourra pas y avoir de grande loi sans grand financement. En 30 ans, le nombre de personnes de plus de 85 ans va être multiplié par 3.
Le procès de Bernard Tapie pour escroquerie et détournement de fonds publics est entré dans le vif du sujet. La présidente du tribunal a commencé par un rappel des faits qui a déjà ulcéré l'ancien homme d'affaires devenu comédien. Elle est revenue sur l'arbitrage rendu en 2008 dans le contentieux avec le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. Bernard Tapie a pu s'exprimer ensuite, Florence Turme.
Oui, la présidente du tribunal entame une longue lecture des faits. Bernard Tapie s'indigne. C'est un scandale. Vous êtes en train de nourrir la fable qu'on nous sert depuis 15 ans. Une heure plus tard, il s'avance à la barre, enlève son écharpe, rajuste sa cravate. Je vais essayer d'être plus court. On le sait malade, mais face au tribunal, l'homme d'affaires n'a rien perdu de sa combativité. La voix forte, il appuie sur les mots, parle avec les mains, cherche son public. Tout le monde sait que je ne peux pas réclamer quoi que ce soit puisque j'ai été condamné civilement. Mais le Crédit Lyonnais a encaissé près de 3 milliards d'euros avec la vente d'Adidas. À un moment de l'arbitrage, j'ai touché 230 millions. On a véhiculé l'idée que j'ai pillé l'État. J'ai simplement récupéré 10% de ce que la banque a gagné. Bernard Tapie reprend l'histoire de la vente dans une version totalement opposée aux conclusions de l'instruction. Selon lui, l'entreprise n'était plus en difficulté, mais il avait fait le choix d'entrer en politique et d'accepter le ministère de la Ville offert par François Mitterrand. Parce que quand on me propose d'être ministre, je ne résiste pas, poursuit le prévenu. Et vous ne pouvez pas en même temps être ministre d'un gouvernement de gauche et entamer une entreprise de délocalisation, car c'était le prix à payer pour le redressement d'Adidas. Bernard Tapie marque une courte pause. La modestie, ça n'a pas toujours été mon fort, mais je vous assure, Adidas a été le plus facile à redresser. Cela fait plus d'une heure qu'il est debout et la présidente s'enquiert. Vous souhaitez une suspension d'audience, mais Bernard Tapie est lancé. Non, je suis tellement content de vous expliquer.
Florence Thurme, en direct du Palais de Justice de Paris. Une icône méconnue et énigmatique était présentée ce matin au château de Chantilly. La Joconde nue est un mystère depuis 150 ans pour les experts qui s'interrogent sur sa provenance. S'agit-il ou non d'un tableau de Léonard de Vinci ? Ce carton crayonné avait été acheté comme tel, donc très cher, en 1862 par le duc d'Aumale, l'un des fils du roi Louis-Philippe. Mais au XXe siècle, des doutes avaient accompagné cette œuvre léguée à l'Institut de France et des experts spécialistes du maître demandaient des analyses scientifiques pour en avoir le cœur net. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Vous avez assisté ce matin à la présentation de l'étude menée au Centre de restauration et de recherche des musées de France en vue d'une exposition cet été qui mettra en valeur cette Joconde nue.
Alors voilà le chef-d'œuvre. Vous remarquez évidemment son caractère étrange. On est entre le masculin et le féminin. Elle présente sa nudité, effrontément. Elle nous regarde avec ce fameux sourire énigmatique qui nous évoque la Joconde du Louvre.
Devant les journalistes français, mais aussi italiens, anglais ou japonais, le commissaire de l'exposition reste tout de même prudent. Non, ça n'est pas Mona Lisa nue. Oui, c'est la même posture, assise, de biais. Elle vous fixe du regard, elle croise ses mains en bas du tableau. Mais ce type de portrait était très en vogue à la fin de la Renaissance et pas seulement chez Léonard. Surtout, cette Joconde a des contours très durs. L'arrière-plan a un fond verdâtre et le personnage louche. C'est pour ça qu'au XXe siècle, il a été considéré comme un faux datant du XIXe siècle. Théorie aujourd'hui renversée grâce aux analyses de Bruno Motin, conservateur au Centre de recherche et de restauration des musées de France.
On a réussi à tirer un certain nombre d'observations qui nous montrent qu'il s'agit quand même d'une œuvre ancienne. Déjà, la première chose, c'est qu'il s'agit d'un papier ancien. Vous avez le dessin au charbon de bois qui est typique de ce que l'on fait au XVIe siècle en Italie, les reprises au blanc de plomb qui sont aussi caractéristiques de l'artiste. C'est une œuvre qui a été copiée dès le XVIe siècle par des artistes milanais dans l'environnement de Léonard de Vinci. Et on a vu en plus, d'une façon assez fugace, mais la présence de hachures de gaucher. Lorsque vous regardez les dessins de Léonard de Vinci, ils sont tous hachurés de la même façon, du haut à gauche vers le bas à droite. Donc il y a des présomptions de présence de la main de Léonard de Vinci dans ce carton.
Difficile pour autant d'en être certain parce que ce carton a été maintes fois repris, restauré, abîmé, presque dénaturé parce qu'il a servi notamment de matrice via une technique de piquage pour d'autres tableaux dont l'un, presque identique, est d'ailleurs en dépôt à Vinci, la ville natale du maître. Et c'est l'idée de cette exposition, rassembler toutes les Jocondes nues du monde. Il y en aura au moins 6, prévient Mathieu Deldic, conservateur et commissaire de l'exposition sur la Joconde nue.
Pour la première fois, on va confronter ce carton avec toutes les compositions peintes, les tableaux de Joconde nue. Ça n'a jamais été fait, parce qu'on va pouvoir essayer de comprendre les filiations entre les versions. On entre dans l'atelier de Léonard de Vinci, on voit comment les compositions, les matrices qu'il invente sont réemployées, sont réutilisées. C'est une œuvre qui en dit beaucoup aussi sur ses conceptions intellectuelles, son idée de la beauté idéale. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec Léonard, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend un cas particulier, il le tend vers l'universel. Et c'est le cas ici avec la Joconde nue.
Et la Joconde nue sera visible pour tout public au château de Chantilly à partir du 1er juin et jusqu'au 6 octobre.
Cécile de Kervas-Doué.
Le Parlement britannique se prononce une nouvelle fois ce soir sur l'accord de Brexit. L'Union européenne a accordé hier soir d'ultimes concessions à la Première ministre, Theresa May. Mais les partenaires du Royaume-Uni ne se font pas d'illusions. On se dirige vers un nouveau rejet de l'accord, Antoine Gignot.
Comment les jeux sont faits? Jacob Rees-Mogg, le chef de file des conservateurs eurosceptiques, vient de l'annoncer. Il va voter contre le texte de Theresa May, entraînant dans son sillage près de 80 députés. Les travaillistes dans l'opposition vont aussi majoritairement s'y opposer, tout comme les libéraux-démocrates et les Verts. Même les unionistes nord-irlandais, les anciens alliés du gouvernement, qui auraient pu simplement décider de s'abstenir, ont décidé de marquer leur rejet. Ils vont clairement se prononcer contre l'accord négocié par la Première ministre. Theresa May a bien tenté cet après-midi de rassembler ses troupes avec cette phrase aux allures de menace. Si le vote échoue, si l'accord n'est pas validé, il n'y aura peut-être pas de Brexit du tout. Elle a ensuite rappelé les principaux points forts du texte négocié avec Bruxelles, la garantie du droit des expatriés, la mise en place d'une période de transition, le contrôle des finances publiques, le contrôle de l'immigration, mais elle n'a pas réussi à inverser la tendance, terminant son allocution le visage marqué, la voix éteinte, presque aphone. Alors que peut-il se passer maintenant? Si l'accord est effectivement rejeté ce soir, les députés auront la possibilité de voter demain pour ou contre une sortie de l'Union européenne sans accord du tout, et il y aura jeudi un vote destiné à demander le report du Brexit prévu pour l'instant toujours le 29 mars.
Antoine Gignot en direct de Londres. L'annonce d'Abdelaziz Bouteflika hier n'a pas rassuré les Algériens. Le président a déclaré qu'il ne briguerait pas de cinquième mandat, mais il a reporté l'élection présidentielle sans fixer de nouvelles dates. Aujourd'hui, des milliers d'étudiants ont manifesté dans la capitale et dans d'autres villes du pays pour dénoncer une ruse du chef de l'État pour se maintenir au pouvoir. On retrouve Leïla Berato à Alger.
Des pancartes actualisées, de nouveaux slogans, des idées pour modifier la constitution écrites sur des post-it colorés et collées sur les murs de la place Maurice-Audin. Les étudiants et les lycéens étaient des milliers aujourd'hui dans le centre d'Alger pour réclamer un changement de système politique, protester contre les annonces du président Abdelaziz Bouteflika et demander le départ du président. Bouchra, 20 ans.
On sortait contre le cinquième mandat et contre le système. Alors aujourd'hui, il abandonne le cinquième mandat, mais c'est comme s'il n'avait rien fait. Il prolonge le quatrième mandat. Alors on est là pour leur dire qu'on est contre qu'il poursuive son quatrième mandat et contre le système.
Sur les pancartes, on voit partout des slogans contre un quatrième mandat rallongé, mais aussi des phrases contre les partis d'opposition ou la conférence nationale qui est qualifiée de fausse ouverture. La manifestation dans le centre de la capitale a duré plusieurs heures dans le calme. Réunis en assemblée générale, les étudiants de l'université d'Alger 2 parlent de ruse du système et appellent à une nouvelle manifestation étudiante mardi prochain, tout en répétant qu'ils refusent les vacances forcées qui ont été décidées par le ministère de l'Enseignement supérieur.
Leïla Berato à Alger pour France Culture. Deux jours après le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines, la France décide d'interdire les Boeing 737 MAX dans son espace aérien. Depuis l'accident, des interdictions de survol ont déjà été annoncées dans de très nombreux pays. En visite officielle en Éthiopie, Emmanuel Macron a fait halte sur le site chrétien de Lalibela et ce soir, le chef de l'État rencontre le Premier ministre Abiy Ahmed dans la capitale. Au pouvoir depuis moins d'un an, le jeune dirigeant éthiopien fait souffler un vent d'espoir sur ce pays qui connaît l'un des taux de croissance les plus forts du monde. À Addis Abeba, le reportage de Cyril Sauvageau.
Dans les rues d'Addis Abeba, les autocollants à l'effigie d'Abiy Ahmed témoignent de l'engouement intact des Éthiopiens pour leur jeune Premier ministre un an après son accession au pouvoir. À 42 ans, d'origine chrétienne et musulmane, celui qu'on appelle ici « docteur » a déjà marqué les esprits, observe Aklidou, un guide francophone.
Quand il était au pouvoir, son premier travail c'était faire liberté pour les journalistes, pour les gens qui ont été en prison. Ce que je vois même en Afrique, on peut dire, c'est le premier pays qui n'a pas un prisonnier, journaliste ou bien à cause de la politique, quoi. Et ça, c'est un grand changement pour le pays, quoi.
Autre acte fondateur, la signature d'un traité de paix historique avec l'Érythrée après des décennies de conflits. Mais pour Caballo, jeune vendeur de rue d'Addis, l'espoir n'est pas seulement politique.
La nouveauté, c'est qu'il y a moins d'injustice à tous les niveaux. Jusqu'ici, quand les riches détiennent quelque chose, ça donne tout de suite lieu à de la corruption.
Mais Abiy Ahmed est en train de changer ça. C'est un bon leader pour l'Éthiopie. Je
pense que l'économie va suivre et la prochaine génération en profitera. Avec une croissance à 8%, les perspectives sont bonnes, mais les enjeux sociaux et économiques demeurent énormes dans ce pays pauvre, le deuxième le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 100 millions d'habitants.
Notre envoyé spécial en Éthiopie. La fin des combats semble imminente à Baghouz, dans l'est de la Syrie. À la suite d'une nuit d'intenses bombardements, les forces démocratiques syriennes soutenues par Washington ont annoncé la reddition de quelques 2000 djihadistes. Demain mercredi, Météo France prévoit des giboulées et un vent encore parfois soutenu. Le matin, il fera entre 1 et 4 degrés du nord-est au Massif central et à Rhône-Alpes, 3 à 6 sur l'ouest et le sud. L'après-midi, 9 à 14 en général, 14 à 18 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.